Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Mars 1962, 18 mars 2022, il y a 60 ans, la signature des accords d'Évian. Il prévoyait un cessez-le-feu applicable dès le 19 mars à midi sur tout le territoire algérien. Des accords qui ont mis fin officiellement à 132 années de colonisation française en Algérie et à 7 années et 5 mois de guerre. Emmanuel Macron présidera demain à l'occasion de cet anniversaire une cérémonie à l'Élysée. Notre invité sera l'historien spécialiste de la période coloniale, Gilles Manceron. Sur cette page de l'histoire, entretien également avec le fondateur de l'association mémorielle Les Oranges, Mohamed Kaki. Au moins 70 candidats à l'exil sont morts noyés ces deux dernières semaines après avoir quitté la côte libyenne en direction de l'Europe, une information de l'Organisation internationale pour les migrations. L'offensive de l'armée russe continue de s'étendre en Ukraine. Des missiles russes ont frappé le quartier de l'aéroport de Lviv, grande ville ukrainienne située près de la frontière polonaise. Je suis venu porter un discours de reconnaissance au travail que font aujourd'hui les musulmans de France pour permettre à notre pays de vivre dans la fraternité. Des mots de la maire de Paris, candidate socialiste à l'élection présidentielle, ce matin à la Grande Mosquée de Paris, nous l'écouterons. L'invité de rencontre cet après-midi était Maître Chemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, extrait de cette émission dans votre journal. Cela fait 60 ans, c'était le 18 mars 1962, la signature des accords d'Évian entre les représentants de la République française et ceux du FLN et du gouvernement provisoire de la République algérienne. Ces accords mettent fin officiellement à 132 années de colonisation française en Algérie et à 7 années et 5 mois de guerre. Gros plan sur cette page de l'histoire avec l'historien spécialiste de la période coloniale, Gilles Manceron.
C'est une étape importante et qui avait le mérite de mettre fin à une guerre meurtrière. Hein. C'est par centaines de milliers qu'on compte les victimes de cette guerre, hein, peut-être un demi-million ou quelque chose qui approche, surtout des victimes algériennes, mais il y a eu aussi des Européens, il y a eu quelques dizaines de milliers, 20 000 au moins de soldats français, etc. Donc c'était une guerre meurtrière et il fallait y mettre un terme. Et quand le général de Gaulle a opéré une sorte de virage dans sa politique, parce qu'il était très ambigu en 58 quand il est arrivé au pouvoir sur la solution de ce que l'on appelait le problème algérien, il a ensuite annoncé qu'il était favorable à une autodétermination, puis à même à une république algérienne. Et il a ouvert des négociations et le GPRA, le gouvernement provisoire algérien, a répondu positivement. Il s'agissait de mettre fin à une guerre meurtrière avant tout.
Qui ont été les principaux acteurs de ces négociations?
Côté algérien, ça a été une délégation du GPRA qui a été dirigée, présidée par Belkacem Krim, qui était un maquisard de la première heure et même qui avait commencé à monter au maquis, si je puis dire, avant même le 1er novembre. Donc c'est vraiment un historique de la lutte d'indépendance nationale, et c'est lui qui présidait cette délégation, où figuraient d'autres représentants du GPRA, spécialistes dans certains domaines économiques, diplomatiques ou autres. Et ils avaient aussi eu recours à des experts, quelqu'un comme Mohamed Harbi, par exemple, qui avait été, quand il était étudiant, un militant de la Fédération de France du FLN et du FLN en général, eh bien, il a été sollicité comme expert en raison de ses études universitaires. Quoi.
Côté français, quelles étaient les personnalités qui ont mené ces négociations?
Côté français, ça n'a pas été conduit à l'initiative du Premier ministre. Ces négociations ont été menées par une délégation que le général de Gaulle avait nommée et à la tête de laquelle se trouvait Louis Jox, qui était en accord avec lui, avec le chef de l'État, sur l'issue sous forme d'indépendance accordée, si je puis dire, à l'Algérie et accordée au GPRA. Donc ce n'était pas la position du Premier ministre. C'est ça qui compliquait la tenue de ces négociations et qui les a même prolongés, parce que Michel Debré, le Premier ministre, n'était pas d'accord avec cette issue. Donc il a mis tous les bâtons dans les roues qu'il a pu à la conduite de ces négociations.
Et les violences se sont poursuivies pendant plusieurs mois après la signature de ces accords.
Oui, ces accords ont été refusés par l'OAS, l'organisation armée secrète, donc constituée début 61, qui a été présente au moment du putsch des généraux d'avril 61 et qui est hostile à l'indépendance de l'Algérie. Et elle a un appui d'une grande partie, pas la totalité des Européens d'Algérie, loin de là, mais de la majorité d'entre eux. Et l'OAS se livre à des attentats contre tous ceux qu'elle considérait comme des indépendantistes ou bien des traîtres, entre guillemets, parce qu'ils étaient qualifiés de gaullistes, qualifiés de communistes, y compris quand c'était des Européens d'Algérie, originaires de familles de longue date présentes. Donc cette OAS a fait une guerre contre les accords d'Évian, et y compris qui l'a amené à s'en prendre aux soldats français, considérés comme des ennemis.
La commémoration de ce 60e anniversaire, c'est un moment délicat pour l'exécutif en pleine campagne présidentielle, connaissant les différentes positions des candidats.
En France, oui. Alors, le président de la République a affirmé son intention de dire la vérité, d'ouvrir les archives et de mettre fin au déni sur cette période coloniale et de la guerre d'Algérie, mais cela ne fait pas l'unanimité, y compris dans son propre camp, hein, mais par rapport notamment aux gens qui sont plutôt ralliés venant de la droite française ou même venant de la gauche, comme certains partagent aussi cette non-volonté de mettre fin au déni et de dire les choses sur la période coloniale. Donc il est un petit peu gêné par son propre camp et par l'importance de l'extrême droite dans l'opinion française, hein, puisque l'extrême droite, avec ses deux chefs de file bien connus, représente un taux d'intention de vote que l'extrême droite ne rassemble nulle part en Europe. Il y a une extrême droite française qui est nostalgique de la colonisation, hein, et qui fait partie du paysage de ce pays.
Gilles Manceron, historien spécialiste notamment de la période coloniale, les accords d'Évian signés le 18 mars 1962 prévoyaient un cessez-le-feu applicable dès le 19 mars à midi sur tout le territoire algérien. 60 ans après, le président français présidera ce samedi une cérémonie à l'Élysée. Elle réunira des personnalités liées à la guerre d'Algérie. Le fondateur de l'association mémorielle Les Oranges, Mohamed Kaki, nous dit ce qu'il en attend.
Nous attendons beaucoup de choses du président de la République, qu'il s'exprime justement à l'occasion de ce 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, à l'occasion notamment aussi du 19 mars, qui est un cessez-le-feu entre le gouvernement provisoire algérien à l'époque avec Krim Belkacem et puis Louis Jox à l'époque le 18 mars, une date importante puisque le lendemain ça a été appliqué, donc le 19 mars, le cessez-le-feu, mais le véritable indépendance des Algériens, ça a été le 5 juillet 1962. Alors, pour autant, il y a beaucoup de choses qui sont à voir. Je pense que le président de la République, la première chose qu'il puisse faire, c'est reconnaître les crimes d'État en Algérie, la condamnation de l'OAS, hein, l'organisation armée secrète, qui a été une organisation terroriste, qui a terrorisé les gens entre, d'ailleurs, le 19 mars et l'indépendance réelle, c'est-à-dire le 5 juillet. C'est une organisation véritablement terroriste qu'il faut la condamner. Mais il faut que le président de la République, Emmanuel Macron, reconnaisse tous les crimes d'État, les crimes contre l'humanité, comme il l'avait dit lui-même lorsqu'il était candidat à l'époque. Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'il s'honorerait, le président de la République, à la fin de ce mandat et au début, peut-être pour lui, d'un autre mandat. En tout cas, ça sera apprécié par la communauté algérienne de reconnaître réellement tous les crimes d'État. Le 8 mai 1945, ça a été une horreur, et tous les crimes en Algérie, pour que, je dirais, on puisse continuer à travailler ensemble dans la sérénité, que les deux peuples, le peuple français et le peuple algérien, puissent continuer à travailler ensemble.
Ahmed Kaki, président fondateur de l'association mémorielle Les Oranges. Au moins 70 candidats à l'exil sont morts noyés ces deux dernières semaines après avoir quitté la côte libyenne en direction de l'Europe. Une information de l'Organisation internationale pour les migrations. Selon l'OIM, une embarcation transportant 25 migrants a chaviré le 12 mars dernier au large de Tobrouk, dans l'est de la Libye. L'organisation a évoqué un autre naufrage, datant celui-là du 27 février, quand un bateau s'est renversé 4 heures après être parti du port de Sabratha. L'offensive de l'armée russe continue de s'étendre en Ukraine. Des missiles russes ont frappé le quartier de l'aéroport de Lviv, grande ville ukrainienne située près de la frontière polonaise. Une usine a été détruite. Jusqu'à présent, la ville était épargnée par les combats. Le maire de Lviv estime qu'il n'y a plus d'endroits qui seraient en sécurité en Ukraine. La candidate socialiste à l'élection présidentielle et maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est rendue ce vendredi matin à la Grande Mosquée de Paris. Anne Hidalgo s'est notamment entretenue avec le recteur, maître Chemzeddine Hafiz. « Je suis venu porter un discours de reconnaissance au travail que font aujourd'hui les musulmans de France pour permettre à notre pays de vivre dans la fraternité », selon les mots d'Anne Hidalgo au micro de Radio Orient.
Très important de venir dans ce lieu qui est un haut lieu de l'islam de France et puis aussi qui est un lieu qui a été bâti pour remercier les musulmans d'avoir participé à la Première Guerre mondiale, d'avoir donné leur vie, nos compatriotes, mais aussi des musulmans venant d'autres territoires qui ont donné leur vie pour la République française. C'est un lieu que j'aime particulièrement, dans lequel, en tant que maire de Paris, je viens, d'ailleurs comme mes prédécesseurs, et qui nous permet aussi, grâce au travail qui est fait ici par le recteur de la mosquée de Paris, de travailler aussi sur la place de cette religion, de l'islam, dans notre pays, de sortir de ces amalgames, de ces recherches de boucs émissaires, de ces facilités, de ce populisme, de ces propos extrêmes et haineux, qui vise à atteindre quoi ? La fraternité. Et les choses sont très claires. Les valeurs de notre République, la laïcité, ne sont pas négociables, évidemment. Elles sont là, elles nous protègent, elles nous donnent une liberté. Et cette liberté, c'est aussi de pouvoir exercer, évidemment, une confession et un culte lorsque on a une confession ou un culte. Et donc, je suis aussi venue porter ce discours, non pas d'apaisement, mais de reconnaissance au travail que font aujourd'hui les musulmans de France pour justement permettre à notre pays de vivre dans la fraternité, donner des perspectives aux Françaises et Français de confession musulmane et des perspectives qui amènent toujours vers la fraternité. Voilà, c'est aussi un message très très clair aux extrêmes, à l'extrême droite notamment, qui considèrent qu'il faudrait faire de la question de l'islam un sujet d'affrontement dans le pays.
La maire de Paris, candidate socialiste à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo, l'invitée de rencontre cet après-midi sur Radio Orient, était maître Chemzeddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Il publie, n'en déplaise à certains, Nous sommes les enfants de la République aux éditions Kéro, extrait de cette émission.
C'est une chance inouï pour moi, qui ai travaillé aux côtés de Dalil Boubacar pendant plus de 20 ans, et d'être aujourd'hui recteur de la Grande Mosquée de Paris est à la fois un grand honneur, mais en même temps une très grande responsabilité, parce que effectivement, je ne dois pas aujourd'hui faillir à ma mission. Je suis le 7e recteur, et chaque recteur, comme je le dis, a joué un rôle important, a joué un rôle de premier plan souvent, dans des moments extrêmement difficiles, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale pour Abdul Ben Rabrit, que ce soit pour Hamza Boubacar pendant la guerre des six jours en 67, pendant, je dirais, les différentes missions qui ont été données à ces recteurs, il y a eu une constante. C'est l'islam du juste milieu, l'islam de la fraternité. Cet islam que aujourd'hui nous avons tous dans notre cœur, et c'est pour cela que je considère que cette mosquée, comme je le dis, à travers son esthétique, mais à travers également sa position, elle est en plein quartier latin, elle est juste à côté du Jardin des Plantes. Vous imaginez cette position géographique qui est incroyable. Et donc pour cela, il faut qu'on soit à la hauteur de ces engagements. Mais en même temps, au-delà de ce lieu de spiritualité, c'est un lieu de visite tout simplement. Et moi, je suis extrêmement ému lorsque je vois des non-musulmans passer la porte de la Grande Mosquée de Paris pour venir se promener dans les jardins.
Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Maître Shamseddine Hafiz, invité de rencontre cet après-midi sur Radio Orient, émission disponible sur radioorient.com, émission présentée par Loïc Barrière. Emmanuel Macron propose une réforme du RSA prévoyant l'obligation de consacrer 15 à 20 heures d'activité par semaine, une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle. Le président candidat s'est engagé, s'il est réélu, à faire verser les aides sociales à la source de manière automatique. Lors d'une conférence de presse, Emmanuel Macron a décliné son programme, plein emploi d'ici 5 ans, indépendance énergétique et allongement de l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Pierre Luce, ancien référent départemental de La République En Marche dans les Yvelines, militant des jeunes avec Macron. Émission présentée par Loïc Barrière. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.